Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. En compagnie d'un garçon dont on m'avait dit qu'il aimait sincèrement l'histoire, qu'il avait une parfaite connaissance de généalogie royale, on peut dire que je me suis fait avoir.
Le fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, il avait quand même épousé Marie, reine d'Écosse.
Et qu'est-ce que ça me fout ?
Bonjour Stéphane ! Bonjour à... Oh, vos montages ne trompent personne ! Peter savent à quel point la généalogie royale me passionne. Et c'est une joie de vous retrouver pour deux heures d'histoire décontractée autour de personnages bien différents, mais pourtant unis par un point commun.
Comme moi, vis-à-vis de vous, Mathieu, ils sont animés par la vengeance. Oh. Salvatore et Adamo le disaient déjà.
Que de référence.
Et ils ont eu leur revanche, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on réunit des revanchards de l'histoire. À commencer par Jeanne de Belleville, que l'histoire a surnommé la tigresse bretonne. Son époux a été tué à la demande du roi. Il a souhaité le venger. Elle a pris la mer pour ça. Je vous raconte le destin d'une femme devenue pirate par vengeance. Puis lui, ce n'est pas en mer, mais dans les airs qu'il a pris sa revanche. L'aviateur Charles Godefroy, qui s'est vu refuser de voler lors de la cérémonie du 14 juillet, juste après la guerre, a décidé de retourner quelques jours après sur les Champs-Élysées avec un défi fou, passer sous l'Arc de Triomphe avec son petit avion. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de deux jumeaux qui ont raté l'aventure de Facebook.
Oui, mais qui ont obtenu depuis leur revanche. Je vous raconte la folle histoire des frères Winklevoss qui ont donc loupé le tournant Facebook mais qui se sont bien rattrapés en misant dès 2009 sur une petite crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Il pèse aujourd'hui chacun 1 milliard de dollars. Alimentant cette question qu'on se pose souvent avec David, mais qu'est-ce qu'on a foutu nous pendant ce temps?
Justement, avec nous comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, avec votre thématique de la revanche, je ne pouvais pas, moi, ne pas évoquer un film qui vient de sortir. C'est Le Dernier Duel de Ridley Scott, bien sûr. Alors là, ce n'est pas une revanche, c'est un véritable règlement de compte qui se faisait devant Dieu. Ça s'appelle un duel judiciaire et donc je vais vous raconter ce qu'était un duel judiciaire au Moyen-Âge.
Une ordalie.
Oui, alors c'est, oui, mais c'est une forme d'ordalie, mais enfin l'ordalie, ça concerne le vulgo pécou, c'est-à-dire vous, par exemple, vous seriez passé par l'ordalie, on vous aurait donné un fer rouge à tenir à la main. Comme ça.
Pas de mots trop compliqués à l'heure du goûter. David Castello-Lopez est avec nous. Stéphane.
Vous remontez aux origines d'une invention.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une vraie invention. Je pense qu'ici, tout le monde est cultivé autour de la table, donc tout le monde connaît les origines. C'est le système métrique. Voilà. Je vais vous raconter des histoires du système
on
métrique.
On est censé connaître ?
Ah non, je pense qu'il y a des gens ici autour de la table. Je me tourne vers Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est sûr que Clémentine sait. Oui. Mais ne le dites pas.
Moi, je ne sais pas. Je joue toujours le rôle de l'idiot, moi, dans cette émission.
Mais non, rassurez-vous, vous le faites très bien. Alors, comme c'est l'heure du goûter, disiez-vous,
c'est
symbolique de nos goûters d'enfance. Une barre de pâte de coin.
On n'a pas eu la même enfance.
Ah, oui. Alors c'est vrai, moi j'en recevais aussi à cette période. C'est la saison des coins aussi. C'est un peu plus tard, à la Saint-Nicolas en Belgique, on recevait souvent des pâtes de fruits, dont des pâtes de coin. Je raconterai l'histoire de la pâte de coin.
C'est un truc qu'on mange tout le temps en Portugal.
Vous avez dit un mot en portugais,
marmelade.
C'est ça ? Marmelade.
Marmelade.
Vous inventez des mots.
Marmelade en portugais français, marmelade.
Et vous savez que je ne suis pas là pour étaler ma confiture, enfin ma culture, je veux dire. Mais la marmalada qui a été apportée par Catherine de Bragance au roi d'Angleterre. Et c'est comme ça que la confiture en anglais se dit marmalade.
Et ça, je vous le dis, Clémentine, je suis désolé, c'est un point de plus d'avance pour Stéphane dans le quiz tout à l'heure.
Attendez,
le
qu'est-ce quiz que je pourrais sortir sur la confiture.
Ah, si vous trouvez quelque chose sur la confiture, vous aurez un point de plus. Sinon, on démarra à 1-0, c'est comme ça. Stéphane démarre avec un point d'avance le quiz tout à l'heure.
Je parlerai de la confiture verte à l'opium de Baudelaire.
Non, ce n'est pas précis, ce n'est pas un point. C'est Stéphane.
Elle a apporté une autre chose.
Non.
Elle a apporté aussi Umbrella. Umbrella, parce qu'on l'appelait The Ugly Queen, elle était très laide, donc elle se cachait sous une ombrelle, et d'ailleurs le parapluie se dit en anglais
Umbrella. Bon, bah, je vais peut-être pas me présenter au quiz.
Deux choses, Catherine,
deux points d'avance.
C'est la première fois que le quiz va démarrer avec deux points d'avance. Handicap de deux points pour Clémentine.
Ça promet
une joute exceptionnelle. Mais tout de suite, les amis, savourons notre première histoire de vengeance du jour. Comme Stéphane, elle a choisi les armes.
Oh les mains.
Pour se venger. Une vengeance qui va se jouer en mer, le pied marin, et avec un gilet de sauvetage pour assurer sa sécurité tout de même, Stéphane Bern nous raconte la pirate revancharde, Jeanne de Belleville.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes à l'été 1343. Ce jour-là, à Nantes, le soleil vient à peine de se lever. La noble dame Jeanne de Belleville marche le long des remparts de la ville, entraînant avec elle deux de ses enfants, Olivier et Maurice. Folle de désespoir, elle contemple une tête tranchée, placée en hauteur à la vue de tous sur ordre du roi Philippe VI de Valois. Cette tête, c'est celle de son époux Olivier IV de Clisson. Jeanne lève le bras de chacun de ses fils vers le ciel pour leur faire prêter serment de haine envers le roi de France. Désormais, Jeanne de Belleville n'a qu'un seul but, venger la mort de son bien-aimé. Mais revenons aux origines. En 1328, Jeanne de Belleville, qui est déjà veuve à 28 ans, épouse en seconde noce Olivier IV de Clisson. La beauté et la douceur de la jeune femme, dont nous n'avons aucune représentation, sont célébrées des lieux à la ronde. De son côté, Clisson est un guerrier valeureux, issu d'une prestigieuse maison de Bretagne. Ensemble, ils ont 4 enfants, dont l'un, Guillaume, meurt avant ses 10 ans. Jeanne leur consacre ses journées, alternant avec des sorties à cheval ou des parties de chasse sur ses terres. Son mari est souvent absent, occupé à se battre aux côtés du roi de France contre les Anglais, en pleine guerre de 100 ans. Au cours d'un siège, Olivier de Clisson est fait prisonnier. Heureusement, il parvient à être échangé contre un Anglais, quant à lui détenu par les Français. Ouf ! Jeanne de Belleville est soulagée de voir son époux rentrer sain et sauf au château familial. Mais la sérénité du couple va être de courte durée. En mars 1343, Olivier de Clisson se rend à Paris, où un tournoi est annoncé. Quel honneur pour lui d'avoir été choisi pour défendre les couleurs de la Bretagne. Cependant, sa captivité en Angleterre et les conditions de sa libération semblent suspectes à certains seigneurs, qu'il accuse d'avoir noué une alliance secrète avec les Anglais. Convaincu lui aussi de sa haute trahison, le roi de France, Philippe VI, ordonne son arrestation le temps d'une enquête. Avant même qu'il ait pu jouter à son arrivée à Paris, Clisson est conduit à la prison du Temple, puis au Châtelet. Jeanne de Belleville tente bien de le faire libérer, en vain. Quelques jours plus tard, la trahison est prouvée et Clisson est définitivement condamné grâce à une lettre d'Édouard III adressée à son fils, dans laquelle le roi anglais l'assure du soutien de nobles bretons, parmi lesquels Olivier de Clisson. Jeanne de Belleville est sommée de répondre devant le Parlement pour rébellion et excès commis contre le roi avant qu'Olivier de Clisson ne soit exécuté sur la grande place des Halles. Et, ultime cruauté, sa tête est envoyée à Nantes pour être exposée à la vue de tous. Si Jeanne de Belleville s'effondre à l'annonce du trépas de son époux, rapidement, sa douleur se transforme en terrible haine à l'encontre du roi de France. Elle jure de le venger. Sans attendre, elle se met à parcourir ses domaines bretons et envoie des émissaires pour rallier les partisans à sa cause. À force d'acharnement, Jeanne de Belleville réussit ainsi à lever une armée de 400 hommes, prêts à servir ses projets de vengeance. À la tête de sa troupe, elle galope vers un château voisin, le château de Touffou, partisan du roi de France. Arrivée devant, une partie des hommes se cache, tandis que Jeanne, escortée d'une quarantaine de soldats, s'avance vers le pont-levis et demande l'entrée. Le commandant ne se méfie pas. Il suppose que cette noble dame vient lui rendre une visite de courtoisie. Elle lui ouvre grand les portes. Aussitôt, la douve traversée, Jeanne de Belleville appelle le reste de son armée qui se rue sur le château. Elle n'a aucune pitié, la garnison entière est trucidée. La douce dame de Belleville est devenue un chef de troupe sanguinaire. Dans les semaines qui suivent, elle attaque plusieurs châteaux alliés du roi de France. À chaque fois, c'est un massacre sans pitié. Ces actes de rébellion ne peuvent rester impunis par le roi qui l'assomme de venir comparaître devant le Parlement de Paris. Jeanne de Belleville se dérobe, n'ayant pas oublié que son défunt mari a déjà fait les frais de la justice expéditive de Philippe VI de Valois. À partir de septembre 1343, Jeanne est bannie du royaume de France et nombreux de ses biens sont confisqués. Elle vend ceux qui lui restent, bijoux et argenterie, pour pouvoir traverser la Manche et rejoindre le roi d'Angleterre Édouard III, en armant un navire, peut-être même plusieurs, selon la légende, sur lesquels sont sans doute présentes les armoiries des Clisson, un lion d'argent armé, couronné d'or, avec pour orgueilleuse devise « pour ce qu'il me plaît ». Désormais, c'est sur les mers que Jeanne de Belleville fait régner la terreur. L'amant pli de haine, mais ne pouvant atteindre Philippe VI lui-même, elle s'attaque au navire marchand de son royaume, ce qui porte un coup terrible au commerce maritime français. Jeanne de Belleville longe les côtes, ne laissant aucun espoir à ceux qui croisent son chemin. Les équipages sont impitoyablement décimés et les bateaux envoyés par le fond. Armes au poing, la dame pirate mène ses troupes sans faillir. Elle a abandonné les atours féminins pour le haubert, une sorte de cotte de maille. Au lieu des coiffures sophistiquées qu'elle avait l'habitude de porter, ses cheveux volent tels une crinière autour de son beau visage. Désormais, on la surnomme la tigresse bretonne et même la lionne sanglante. Mais Philippe VI n'abandonne pas la partie et lance à sa poursuite plusieurs navires armés. La flotte de Jeanne de Belleville se réduit comme peau de chagrin et bientôt, elle ne dirige plus qu'un seul bateau pirate. Aux alentours de l'année 1344, la tigresse bretonne se prépare au combat ultime. Au bruit d'assourdissant d'éclairons, Jeanne de Belleville voit les vaisseaux français avancer. Lorsque ceux-ci sont assez près, elle ordonne le lancement des grappins. Les deux navires se rapprochent dangereusement. Les arbalétriers se mettent en position. Ils tirent leur premier trait. À l'abordage ! Une bataille féroce au corps à corps s'engage sur le pont. On tranche à coups de hache, on fend les crânes avec des cogniers. Du haut des mâts, pierres et carreaux d'arbalète tombent en un flot ininterrompu. Finalement, l'équipage de Jeanne de Belleville est terrassé. Alors que son bateau sombre dans les eaux glacées de la Manche, elle embarque avec ses deux fils et quelques fidèles sur une chaloupe. Ils n'ont pas le temps d'emporter ni eau ni nourriture, et le voyage pour regagner la rive est terrible. Au bout de 3 jours, Jeanne de Belleville assiste impuissante à la mort de son fils Maurice dans le naufrage. Pendant plusieurs jours encore, les naufragés naviguent à l'aveugle, cherchant désespérément les côtes françaises. Enfin, ils débarquent à Morlaix, en Bretagne, terre ennemie du roi Philippe VI. Aidée de complices, Jeanne de Belleville part finalement en Angleterre. Abandonnant ses projets de vengeance, elle consacre désormais son énergie, qui semble inépuisable, à préparer l'avenir d'Olivier, le seul de ses fils à avoir survécu, et à sa fille Jeanne. Par des moyens pacifiques cette fois, elle essaye de récupérer son héritage. Jeanne de Belleville semble retrouver un peu de sérénité, mais aussi l'amour. Vers 50 ans, elle fait la connaissance du lieutenant anglais Gauthier de Bentley. Jeanne de Belleville s'unit à lui 6 ans après l'exécution de son époux Olivier de Clisson et ne fera plus parler d'elle jusqu'à sa mort en 1359. Elle ne verra pas son fils Olivier récupérer enfin les terres familiales qu'elle avait sacrifiées dans sa folie vengeresse. Jeanne de Belleville a voulu sa revanche, elle l'a eue, mais elle l'a perdue.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jeanne de Belleville, nous avons le plaisir d'accueillir la romancière Laure Buisson. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour Laure Buisson, vous avez écrit « Pour ce qu'il me plaît, Jeanne de Belleville, la première femme pirate » parue chez Grasset et rééditée au livre de poche. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage qui est digne d'un roman en tout cas?
C'était une guerrière déjà. Donc, il y avait déjà ce point-là. Ensuite, ce qui me plaisait beaucoup, c'était qu'elle a été capable de se dépasser, c'est-à-dire de troquer sa vie de château confortable pour une vie d'aventurière pleine d'incertitudes, de risques. Tout ça au nom d'un idéal, au nom de l'amour aussi, j'aime à le croire, mais l'amour peut-être aussi de ses enfants, évidemment, de sa terre, de son nom. Et puis j'ai vécu aussi avec elle pendant 6 ans, puisque j'ai fait des recherches pendant 6 ans. Et ça a été une aventure pour moi. J'ai eu l'impression de vivre l'aventure de Jeanne de Belleville. J'ai vécu au Moyen-Âge pendant 6 ans.
Alors, c'est une femme pirate, mais plus par nécessité de venger son mari que par choix. On a l'impression que prendre la mer avec 3 navires, selon la légende, c'est simple. Mais on est d'accord que c'est tout sauf simple ce qu'elle fait. C'est invraisemblable.
Alors, à l'époque, je pense que quand on n'était pas militaire ou marin de naissance, c'était de toute façon très difficile de prendre la mer, parce qu'on naviguait quand même en regardant les étoiles et le ciel. Après, c'était difficile, oui, mais je pense qu'elle avait au fond d'elle une telle soif de vengeance qu'elle était prête à tout. On est loin de la piraterie du 17e et du 18e où les femmes étaient obligées de se travestir pour monter sur les bateaux. Déjà, il y a ça. Et elle a montré quand même qu'elle était une sacrée meneuse puisqu'elle a quand même rallié des gens autour d'elle. Elle a attaqué des châteaux avant d'embarquer sur mer. Elle a attaqué des châteaux autour d'elle. Donc les gens avaient confiance en elle.
Justement, vous dites qu'elle a... Elle a rallié beaucoup d'hommes autour d'elle. Mais qui sont-ils? Ce sont des grands seigneurs, des Bretons qui sont opposés au roi de France, des paysans, ceux qui partageaient sa, sa haine du roi de France.
Voilà, c'est ça, exactement. C'était des, alors, il y avait des seigneurs, des petits seigneurs, des seigneurs de son domaine. Il y avait des gens de son domaine aussi. Il y avait effectivement d'autres seigneurs qui étaient contre le roi de France, parce que le roi de France, à l'époque, Philippe VI, n'était pas très aimé par tout le monde, tout au moins. Il y avait des paysans, il y avait des hommes d'armes. Donc, c'était tous des gens, en fait, qui étaient fidèles au nom de Clisson, surtout, parce que les Clissons représentaient vraiment une famille de valeureux guerriers. Ils étaient extrêmement puissants, aussi bien financièrement que politiquement, puisqu'ils étaient proches des rois de France. Donc, tous ces gens, en fait, se sont retrouvés autour d'elle et ont sauté le pas avec elle dans sa vengeance.
Alors, on en parlait tout à l'heure, vous le disiez... Est-ce que Jeanne de Belleville était follement amoureuse de son époux au point de vouloir venger son honneur, quitte à prendre tous les risques? Ou est-ce qu'elle avait aussi peut-être d'autres motivations?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'aime à penser qu'elle était amoureuse de son mari, évidemment. Mais elle était surtout ivre de rage et elle était surtout humiliée. Elle s'est sentie humiliée parce qu'il faut quand même bien avouer que l'arrestation de son mari, elle a été à la fois mesquine et soudaine. Mesquine parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur, et soudaine parce qu'elle s'est passée lors d'un tournoi. Donc ça a été pour elle une humiliation totale. En plus, après, il y a eu un procès, mais un procès qui a été quand même sommaire. Il a été accusé de haute trahison. Il a été trimballé de la prison du Temple à la prison du Châtelet. Juste avant son exécution, il a été baladé sur ce qu'on appelait la clé de l'infamie, qui est un petit chariot traîné par des chevaux qui se balade dans toute la cité avec le prisonnier. Et donc là, Olivier de Clisson, il avait donc la chemise blanche du pénitent, les mains attachées dans le dos et à genoux sur cette fameuse clé. Ensuite, il a été décapité donc sur la grande place des Halles, donc au vu et su de tout le monde. Donc Jeanne de Belleville, effectivement, était ivre de rage. Et donc, elle était humiliée parce que le nom des Clissons a été humilié, parce que ce genre de condamnation et d'exécution est réservé aux prisonniers de droit commun. Donc, le nom était souillé, le blason était souillé. Elle avait tout perdu, elle avait perdu ses biens, puisque tout avait été confisqué et redistribué. Philippe VI a redistribué assez rapidement les biens qu'il avait confisqués. Donc, elle n'avait vraiment plus rien, elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait pas le choix.
Dans votre livre, vous présentez Jeanne de Belleville comme une femme de tête qui a essayé de prévenir son époux du procès qu'il attendait, puis elle a tout tenté pour le faire libérer. Comment est-ce qu'elle était au courant de... Vous dites que c'était une arrestation soudaine, et même par surprise. Elle se doutait de quelque chose.
Alors, il y avait eu des rumeurs, déjà à l'époque, les rumeurs allaient bon train. Il y avait eu des rumeurs sur la trahison d'Olivier, et notamment une preuve qu'aurait eue le roi Philippe VI. En fait, c'était effectivement une lettre d'Édouard III à son fils, lui disant qu'il pouvait être tranquille, qu'il pouvait guerroyer tranquillement en France, puisqu'il avait le soutien des barons bretons et notamment d'Olivier de Clisson. Donc il y avait déjà cette rumeur qui courait, mais Olivier, qui était quand même quelqu'un de très très arrogant et sûr de lui, il est quand même allé à ce tournoi. Elle a sans doute essayé de le retenir. Il est quand même parti. Une fois qu'il s'est fait arrêter, elle a soudoyé un sergent du roi, qui s'appelait Pierre Nicolas, pour qu'il lui fasse passer un message en vue d'une évasion. Bon, Pierre Nicolas a été arrêté bien avant qu'il ait pu avoir le message, et donc Olivier est resté dans sa prison.
Vous racontez que Jeanne de Belleville, en tout cas, vient d'une lignée de brillants guerriers. Est-ce qu'elle-même, elle avait ça en elle, ou est-ce qu'elle s'est juste hissée à la hauteur des circonstances? Ou elle était déjà comme ça avant, d'une nature guerrière?
Elle avait certainement l'âme guerrière, ça c'est certain, puisqu'elle est allée jusqu'à faire un procès à son propre mari, donc à Olivier de Clisson, parce qu'il ne lui donnait pas ce qu'on appelait la douaire, donc ce qu'il lui devait tous les mois. Elle a attendu pendant quelques années, puis ça ne venait pas, donc du coup elle a fini par lui faire un procès. Donc elle avait quand même au fond d'elle déjà, je pense, cette âme.
Vous dites qu'elle manie l'épée, l'âge d'abordage mieux que les hommes, l'équipage l'écoute et la respecte. Bon, elle avait une éducation militaire ou
Non, elle n'avait pas eu d'éducation militaire, elle a appris sur le tas.
Sur le tas. Ouais. Enfin, elle était douée en
tout cas. Mais moi-même, j'ai essayé de prendre une épée. de voir comment on faisait pour décapiter.
vous avez pris, assurez-nous. Et, un
alors c'est très très lourd, hein, une épée. Ouais. Enfin, là, en l'occurrence, c'était une grande épée. Et en fait, si, c'est faisable. Enfin, je me dis que ça doit être faisable. Ouais. Quand on a une bonne dose d'adrénaline et de colère, c'est faisable.
Stéphane racontait que lorsqu'elle s'exile, elle rejoint le roi d'Angleterre, Henri-Édouard III. Quelles étaient leurs relations? Est-ce qu'elle a eu son soutien pour mener sa vendetta contre le roi de France?
Alors, tout au départ, je pense que il y avait déjà, donc effectivement, Olivier de Clisson avait pactisé avec le roi d'Angleterre. Ensuite, quand elle a commencé à faire ses attaques, tout d'abord autour du château de Clisson, et puis après, quand elle a fait de la piraterie sur les côtes bretonnes et sur les rivières, elle a quand même mis une sacrée pagaille au sein du royaume de France. Donc ça a arrangé beaucoup Édouard III. Ensuite, quand elle a fait naufrage, effectivement, elle a été accueillie à bras ouverts. Le roi d'Angleterre l'appelait notre chère cousine, la dame de Clisson. Et on la retrouve dans toutes les archives médiévales anglaises qui traitent donc de la guerre de Cent Ans. Elle est notée comme participante à toutes les réunions en ce qui concerne la guerre en Bretagne.
En tout cas, après sa défaite, Jeanne de Belleville rentre en France. Elle se remarie. Son mari a été tranché. Elle n'a jamais été inquiétée.
Non, c'est-à-dire qu'elle rentre en France en 49. En 49, on est en pleine période de la peste noire. La guerre n'est pas très favorable aux Français. On a eu de sacrées défaites quand même, il faut bien l'avouer. Les caisses de l'État sont vides. Philippe VI meurt un an après. Et Jean le Bon, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que de poursuivre la lionne sanglante.
En tout cas, merci beaucoup, Laure Buisson. Je rappelle votre livre, Pour ce qu'il me plaît, Jeanne de Belleville, la première femme pirate, réédité au livre de poche. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
beaucoup. Je me permets de mentionner aussi le livre de Marie-Ève Stenuit, Femme pirate, Les écumeuses des mers, qui nous a également aidés pour l'écriture de notre récit. Et c'est passionnant, son histoire.
Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans en faire tout un cinéma. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et Clémentine, aujourd'hui, vous nous racontez un duel célèbre de l'histoire, tellement célèbre qu'il vient d'être adapté par Ridley Scott au cinéma, le dernier duel entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris.
Exactement, ça se passe à Paris, le 29 décembre 1386, sur le champ Sainte-Catherine. Vous voyez là où se trouve le musée des arts et métiers, oui. Non loin du domaine des Templiers, dans un froid de loup, deux hommes s'apprêtent à croiser le fer sous le regard du roi, de sa cour et de la multitude. Et en fait, en France, il n'est évidemment pas rare de voir des chevaliers se prêter à des combats singuliers, bien sûr, mais le duel qui s'annonce n'est pas un affrontement comme les autres. Il revêt une dimension extraordinaire et solennelle, car l'un des deux protagonistes, Jean de Carrouges, que vous citiez à l'instant, en a appelé au Parlement pour obtenir le droit de provoquer un certain Jacques Le Gris en duel judiciaire. Le duel judiciaire, c'est une procédure typique du Moyen-Âge chrétien qui se fait sous le regard direct de Dieu. Donc Dieu n'est pas simplement un témoin passif du duel, il est partie prenante, puisqu'il donnera la victoire à celui des deux combattants qui est dans son bon droit. Et voyez-vous, le duel judiciaire, en faisant intervenir Dieu en direct dans les affaires humaines, incarne l'esprit même du Moyen-Âge. En fait, Philippe le Bel avait voulu supprimer cette pratique. Et puis finalement, elle a été restaurée avec quelques accommodements. Mais ça, c'était très très rare. D'autant que l'Église voyait ça d'un œil assez sourcilleux, parce qu'on l'a mêlé à ses affaires, ça ne lui plaisait guère. Le pape avait même fait interdire la présence de clercs dans les cortèges qui habituellement accompagnaient les duellistes. Et bon, évidemment, le duel judiciaire, sans avoir toute une clique de clercs qui accompagnaient ça bien solennellement, avec force crucifix, ça avait moins de solennité et moins de mystère. Alors, qui sont ces deux hommes qui s'apprêtent à combattre? Il y a donc Jean de Carrouges, il est l'offensé. C'est lui qui a demandé au Parlement de Paris d'autoriser le duel. C'est un chevalier connu pour sa vaillance, dans sa jeunesse, il a combattu aux côtés de Du Guesclin, c'est dire. Il est apparenté à Philippe le Bel. Et Jean de Carrouges était devenu veuf de son épouse Jeanne de Tilly. Il s'est donc remarié à 30 ans à une femme connue pour sa grande beauté, Marguerite de Thibouville. Et aussitôt marié, Jean de Carrouges repart servir le roi de France dans l'incessante guerre qu'il oppose aux Anglais. C'est avant tout un chevalier combattant. Il passe sa vie à aller combattre. Bon. En 1385, il revient d'une expédition en Écosse et il retrouve son épouse anéantie. En larmes, elle lui apprend qu'elle a été violée par Jacques Le Gris. Jacques Le Gris est un ami de longue date de Jean de Carrouges. C'est presque un frère pour lui. Il lui a demandé de veiller sur sa femme absence. Chapeau, bonjour le bon ami. Eh bien, en son absence, il s'est présenté au château, a dîné avec Marguerite et sa suite, en tout bien tout honneur apparemment, puis il l'a raccompagnée dans ses appartements situés à l'étage du donjon. Et là, une fois dans la pièce, il a fermé la porte à clé et il a perpétré son crime. Il a violé Marguerite et dans cet endroit du château, personne ne pouvait entendre ses cris et ses sanglots. Jean de Carrouges revient, il croit son épouse sur parole. Mais il n'y a aucun témoin direct. Mmh. Donc sans témoin direct, la chose ne pourra se régler que par un jugement qui en appelle à Dieu lui-même. Et ça s'est mal engagé parce que Jacques Le Gris est le favori de Pierre d'Alençon, qui est aussi le seigneur de Jean de Carrouges. Donc Pierre d'Alençon va affirmer que Jacques Le Gris était avec lui, chez lui, au moment où le viol a eu lieu. Donc quand votre propre seigneur se porte témoin pour votre adversaire, c'est quand même embêtant. Mais là-dessus survient une nouvelle importante, c'est que Marguerite est enceinte. Elle est enceinte alors que son mari était en Écosse. Donc c'est quand même, ça plaide plutôt en faveur d'une Marguerite disant la vérité. Donc,
ou alors elle avait un amant. Alors, elle a voulu
ou alors c'est son, alors exactement. Ou alors c'est son amant et qui lui plaisait et elle l'a accueilli dans son lit avec beaucoup de bonne volonté. Bon, enfin, en tout cas, au bout de quelques mois, le Parlement finit par décréter qu'un duel sous le jugement de Dieu en champ de bataille à outrance se fera donc à Paris. Le problème, c'est que Jacques Le Gris n'est pas chevalier. Or, dans un duel judiciaire, il faut que les deux soient chevaliers. Donc, on va l'adouber chevalier pour qu'il puisse participer au duel. Ensuite, il y a tout un rituel extraordinairement compliqué et élaboré. Ça n'apparaît pas vraiment dans le film, ça serait trop compliqué, trop laborieux, mais les deux chevaliers prêtent serment jusqu'à une douzaine de fois. Et des serments extrêmement élaborés et magnifiques et grandioses, qui naturellement en appellent à Dieu et à l'honnêteté, à la foi donnée, à la parole donnée. À tout moment, on leur propose de renoncer. Sur le champ de bataille lui-même, on vient les voir régulièrement en disant « Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous voulez battre? Vous ne voulez pas renoncer ?» Et évidemment, l'enjeu du combat est immense, parce que si Jean de Carrouges gagne, le cadavre de son adversaire sera traîné derrière un cheval, nu, pendu au gibet de Montfaucon. Si c'est lui qui perd, il lui arrivera la même chose. Mais en plus, sa femme sera brûlée vive. Non. Et donc, pendant toute la durée... Ah ben oui, si vous avez menti dans un duel judiciaire devant Dieu, c'est extrêmement grave. Donc, pendant toute la durée du duel, Marguerite de Carrouges a été enchaînée sur un échafaud sous lequel les fagots sont déjà prêts. Et donc, si son mari perd, elle est brûlée vive instantanément. C'est la fin des haricots, si j'ose dire. En tout cas, je ne vais évidemment pas vous dévoiler la fin, mais je vous encourage à aller voir ce film, parce que la reconstitution du Paris du Moyen-Âge sur fond de construction de Notre-Dame, mais c'est sublime. Il est allé tourner dans à la fois, je pense, dans le Périgord et le Languedoc, mais aussi en Écosse. Il y a des châteaux absolument extraordinaire sous la neige. C'est la restitution d'un Moyen-Âge. On est pétri de gratitude de pouvoir voir ça. Et puis les scènes de combat, vous savez, il y avait dans Braveheart, ça avait vraiment fait date parce qu'elles étaient extrêmement réalistes. Là, les scènes de combat sont incroyables aussi. Alors, Ridley Scott...
Et puis c'est un sujet très actuel.
Oui, il y a ça aussi, bien sûr.
Alors il
ça,
le dit lui-même, c'est-à-dire sur le consentement des femmes.
Bien sûr. C'est aussi un moment de l'histoire où, évidemment, comme toute l'Europe est à feu et à sang, et la France est en guerre contre l'Angleterre et sort de la grande épidémie de peste en 1348, eh bien, les hommes sont morts ou les hommes sont partis, donc les femmes sont appelées à prendre de nouvelles responsabilités. Et c'est exactement ce qu'on voit avec cette Marguerite de Carrouges. C'est qu'en l'absence de son mari, elle prend un peu des initiatives dans son château. Je finirai en disant que ça se passe donc en 1386, ce duel judiciaire. Jeanne d'Arc naît en 1412. Donc, c'est peu de temps après. Et c'est l'époque où apparaissent les femmes chevaliers, les chevalières ou chevaleresses. Magnifique film de Ridley Scott qui est un maître absolument incontournable en matière de films d'histoire.
Magnifique film et magnifique chronique de Clémentine Portier-Kaltenbach. Si vous
Clémentine.
Voulez en connaître plus sur l'étrange pratique médiévale du duel, vous pouvez écouter le podcast de Clémentine au cœur de l'histoire sur votre appli audio et sur le site europe1.fr. Et dans un instant, vous restez évidemment avec nous, Clémentine. Vous partez avec un désavantage terrible.
Bah, je sais.
Deux
oui.
points de handicap pour vous dans l'ultime duel.
Elle va rattraper.
Qui va vous opposer à Stéphane. À tout de suite.
Europe 1, historiquement vôtre.
Elle était déjà très remontée contre lui, mais quand elle a pris hier son salaire annuel pour présenter historiquement vôtre, Clémentine a trouvé que c'était le pompon.
Quoi ? 750 000 ?
Jouons ! Oui, je comprends votre surprise. Moi aussi, quand j'avais comparé avec mon salaire, ça m'avait choqué. Mais on s'y fait, vous verrez. Jouons à Berne to Biel. Stéphane, la première question est pour vous. Je vous rappelle que vous avez déjà deux points. Non content de gagner plus que nous, vous avez déjà des points supplémentaires dans le quiz. 2-0 déjà, c'est des points que vous avez glanés dans le sommaire de l'émission en nous livrant comme ça, alors que personne ne vous a rien demandé, des infos historiques de qualité. J'espère qu'un jour je goûterai, Stéphane, aux joies simples d'une croisière avec vous et Luc Ferry à bord d'un paquebot. D'ailleurs, le mot paquebot vient du 18e siècle, mais ça vient de l'allemand, de l'anglais ou du suédois. Paquebot.
Oh, écoutez, non. Packet boat, ça vient de l'anglais.
Mais...
Ce sont les bateaux qui transportent les paquets. Non, allez, moi, je vous épiche. Ça vous apprendra. Je vous ai piqué votre point.
Un point pour vous, Clémentine. Vous avez volé la question. Vous avez un point. Vous avez
bah, donnez-lui ma question à
vous
moi,
avez
si
glané
vous
un point sur la question de Stéphane. Donc, pour refaire votre question. Retard. C'est bien joué. Non, question numéro 2 pour vous, Clémentine. ça laisse une chance à l'adversaire. Ouais. Question numéro 2, Clémentine. On a retrouvé le récit de l'existence de ce qui pourrait être le premier distributeur automatique en Chine au 5e siècle. On mettait des zhou, la monnaie de l'époque, et on recevait du tabac. Vrai ou faux ? 5e siècle de notre ère. Ah, le premier distributeur automatique.
On mettait des zhou et on mettait des zhou. Bah, écoutez, regardez la façon dont on distribue la presse dans des pays anglo-saxons. C'est un système qui est fondé sur l'honnêteté des consommateurs.
En Suisse aussi.
Voilà. Et en Suisse aussi, il y a des pays où c'est possible. Donc, si par distributeur automatique, vous entendez la possibilité de servir en laissant une pièce, c'est un système qui ne demande aucune forme de technicité. Donc, il aurait très bien pu exister pour le tabac en Chine au 5e siècle. Et aujourd'hui, son acception la plus moderne, comme vous le savez, c'est le distributeur d'andouillettes de Mentoux-sur-Cher. Donc, je dis oui.
Vous avez...
Tout cet entrain réduit à néant par la réalité des faits. Le premier distributeur automatique date de plus de 2000 ans.
Ah bah voilà, c'est l'homme de Cro-Magnon.
Héron, l'homme de Cro-Magnon il y a 2000 ans. Bravo, alors là on nage dans le n'importe quoi historique. Hein. Là il n'y a plus... Les frises, vous savez les frises chronologiques, 2000 ans. Héron d'Alexandrie.
Voilà. Oui.
Héron d'Alexandrie avait mis au point une machine qui, moyennant 5 drachmes, distribuait de l'eau sacrée pour les fidèles quand ils devaient faire une libation. Voilà le premier distributeur de l'histoire. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On est à 2-1. Partons pour Liverpool. Penny Lane. Cette rue dont les Beatles ont chanté la douce nostalgie a bien failli être débaptisée récemment car des historiens ont découvert qu'elle avait été nommée en hommage à Jack Penny, un espion britannique qui avait trahi sa patrie. Vrai ou faux, Stéphane ?
J'ai entendu une histoire de projet de débaptiser la rue, mais je me demande si c'est pas pour une autre raison. Où il était esclavagiste, c'est pas parce qu'il était...
Alors, qu'est-ce que vous me répondez à cette question ? Alors, est-ce qu'on a pensé débaptiser cette rue ?
On a pensé la débaptiser.
Car elle avait été nommée en hommage à Jack Penny, un espion britannique qui avait trahi sa patrie.
Je crois me souvenir que c'est parce qu'il avait... Non pas parce qu'il avait trahi sa patrie, mais parce qu'il avait fait de l'esclavage.
Donc vous répondez quoi à la question ?
Je ne sais pas, comme vous voulez, c'est...
C'est non du coup, Stéphane.
Suivez votre instinct, Stéphane. Vous me dites que, d'après vous, il s'agirait plutôt d'un esclavagiste. Donc la réponse à la question est...
C'est non, donc.
Vous avez... gagné.
C'est fait comme Bravo. Mon fils. Il faut l'encourager même quand il a la bonne réponse.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on a failli dépatiser.
Mais vous savez tout, Stéphane. Oui. Bravo. Jack Penny était marchand d'esclaves au XVIIIe siècle, mais la rue est tellement touristique que c'était compliqué de la débaptiser. Et en plus, rien ne prouve vraiment que Penny Lane fut un hommage à ce Jack Penny. Un élu local a même précisé que la rue existait 500 ans avant l'esclavagisme.
Ah,
tout
oui,
va bien.
Alors, là, oui.
3-1. Attention.
Oh, bah, c'est fichu,
non,
là.
Non, tout est possible. Tout est possible si jamais je décide soudain que cette question vaut 2 points. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. La période dite Edo dans l'histoire du Japon a duré de 1603 à 1868. Ça, nous le savons. C'est une époque de recherche de stabilité, mais aussi où le pays se coupe de tout commerce avec l'extérieur. C'est durant cette période que les jeunes filles nobles avaient des eoi bikuni, des servantes dont la principale activité était de s'occuper de tous les poils de leur maîtresse. Poils et cheveux. Vrai ou faux ? Les eoi bikuni.
Et en quoi le fait que c'était dans la période de l'Edo
a-t-il
le moindre rapport avec, avec les épilatrices japonaises ?
C'était pour donner du contexte.
Alors, elles avaient des femmes entièrement dédiées à leurs cheveux et à leurs poils. Bah, écoutez, oui, pourquoi pas, après tout... Les grandes dames avaient bien leur coiffeur, donc je vois bien, ce serait bien dans l'esprit nippon, là, l'épilation à outrance du moindre fanère. Je répondrai oui à cette intéressante question.
Vous avez
un oui
perdu.
Qui scelle votre défaite aujourd'hui, c'est faux. J'ai envie de dire, c'est presque encore pire. Elles étaient principalement employées pour une toute autre mission, les eoi bikuni. Elles devaient accompagner les jeunes filles de haute famille et ne plus les quitter quand il y avait des visiteurs. Elles devaient dire « c'est moi » quand les jeunes filles nobles avaient des zéphyrs intestinaux, nous allons dire. Notez que ce rôle n'était employé que pour les femmes. Hein. Chez les hommes, ce genre de moment était plutôt occasion de rigoler.
C'est un genre de chaperon ou de douairière, en gros.
Qui devait assumer la honte.
Bah, peut-être qu'elles épilaient aussi leur patronne. Hein.
Peut-être qu'elles épilaient, mais ça, si vous voulez, ça n'apparaît pas sur ma fiche, donc vous avez tout simplement perdu. Et c'est Stéphane Bern qui remporte
Bravo,
le coup.
Alors là, je veux dire qu'aujourd'hui, Bravo, c'était Stéphane. La déconfiture.
Mmh. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et vous faites bien. Stéphane est très en forme aujourd'hui.
Quand je fais de la purée mousseline.
Une joie de vivre communicative, même si elle a... Il nous faut avancer dans l'émission deuxième heure spéciale vengeance, Stéphane.
Oui, tu l'as eu ta revanche. On réunit cet après-midi les revanchards de l'histoire. Après Jeanne de Belleville, je vous raconte la vengeance de Charles Godefroy. Vous connaissez Charles Godefroy, Mathieu?
Oui, quand même, j'ai vu Les Visiteurs au moins 12 fois.
Non, c'est un autre Godefroy. Ah. Un aviateur qui a volé sous l'Arc de Triomphe. Pour se venger.
Et de mon côté, je vous parlerai de jumeaux en or.
Nous sommes deux sœurs.
Non pas Pouls et Castello, mais les frères Winklevoss. Au début des années 2000, ils ont eu l'idée de Facebook, mais leur pote Mark Zuckerberg a préféré prendre l'idée et créer le réseau social tout seul de son côté. Deux sacrés losers, me direz-vous. Eh bien oui, jusqu'à ce qu'ils investissent dans un petit truc nommé le Bitcoin. Depuis, ils pèsent 1 milliard de dollars chacun. En termes de revanche, on est bien.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs, avec David Castello-Lopez qui nous raconte les origines du système métrique.
Les origines du système métrique, cette invention super qui permet qu'on parle un peu tous la même langue, en tout cas en ce qui concerne les dimensions.
Bah, sauf avec les Anglais.
Sauf les Américains.
Ah oui, les Américains. Oui.
Les Anglais sont passés au système métrique, même si les deux cohabitent encore.
Mais oui. Non. Les Anglais
depuis 1965, c'est officiellement le système métrique, si en fait, dans les faits, les deux systèmes cohabitent encore.
On ne dit pas 2 pieds 3 pouces.
On dit normalement pas 2 pieds 3 pouces, mais en fait, le truc, c'est que ça n'a jamais autant pris que dans d'autres pays, mais en tout cas, officiellement, l'Angleterre est.
On roule toujours à gauche. Angleterre.
On roule toujours
que
à gauche en Angleterre.
Pas la prochaine fois que
vous y allez
souvent. Vous savez, moi, j'aime conduire les Aston Martin dans le pays d'où elles viennent, où elles ont été produites.
Ah,
donc voilà, vous la comprenez.
Et puis, Olivier Pouls revient aux origines d'une chose qui a fait nos délices enfants et puis qui redevient un délice quand on n'a plus de dents, plus âgé.
J'ai l'impression que c'est une petite Madeleine de Proust pour vous.
Oui. Bon, vous nous parlez, il faut le dire à nos auditeurs, de la pâte de coin.
Ouais.
C'est pas folichon quand même.
Et je vous dirai aussi d'où vient le coin, le cognacier, tiens.
Enfin, justement, en pâte de coin, c'est comme ça que David et Olivier devraient finir l'émission une fois que je les aurai passés à la moulinette de ma culture générale. La lutte finale nous attend vers 6h-10. Est-ce que je gagnerai comme tous les jours depuis maintenant des temps immémoriaux? Nous verrons ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, main sur le manche, c'est une image, Stéphane, attention, on va parler d'aviation. Découvrons notre deuxième revanchard du jour. Stéphane Bern nous raconte Charles Godefroy.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 7 août 1919 en région parisienne. Charles Godefroy s'est levé tôt ce matin. À 30 ans, il a un rendez-vous important, que dis-je crucial, qui pourrait changer l'histoire de l'aviation. À 7h20, le jeune aviateur doit être à l'aérodrome de Villacoublay pour décoller à bord de son petit avion direction les Champs-Élysées où il a prévu d'accomplir un exploit extraordinaire, voler sous l'Arc de Triomphe. La nuit a été mauvaise, très mauvaise. Il n'a pas pu trouver le sommeil. Non pas qu'il ait peur, mais à mesure que le moment approche, Charles Godefroy se rend compte des difficultés qu'il va devoir surmonter. Dès qu'il est dans l'avion, pourtant, son appréhension disparaît. Les transes par lesquelles sa mère est en train de passer lui donnent certes un peu de regret, mais surtout le courage nécessaire. Il ne peut pas manquer son but, il doit gagner, oui, il doit se venger. Voler sous pression ne lui fait pas peur. Quand la première guerre a éclaté, Charles Godefroy a fait 36 mois de tranchée avant d'être affecté dans l'aviation où son étonnante habileté l'a fait nommer « moniteur ». Progressivement, il s'est enhardi, a pris confiance en lui et en son appareil. Désormais, Godefroy ose exécuter toutes les acrobaties imaginables. Vrilles, chandelles, glissades sur l'aile, tonneaux et looping, imitant ainsi les célèbres as de l'aviation Georges Guynemer, Jean Navarre, Adolphe Pégou et d'autres, surnommés ainsi en raison de leurs nombreuses victoires dans les combats aériens. Mais comment l'idée de passer sous l'Arc de Triomphe en avion a-t-elle germé dans l'esprit de Charles Godefroy? Vous allez comprendre, à la fin de la Première Guerre mondiale, un défilé de la victoire est organisé à la demande de Clémenceau. Il a lieu le 14 juillet 1919 sur les Champs-Élysées devant une foule immense. Les mutilés de guerre, les gueules cassées ouvrent la marche. Les troupes de tous les pays alliés défilent sous l'Arc de Triomphe. Il y a des canons, des mitrailleuses, des chars d'assaut, mais aucun avion. Par mesure de sécurité, le gouvernement n'a pas autorisé de vol au-dessus de la foule. Les aviateurs doivent donc défiler à pied. Quelle humiliation pour ces héros! Défiant les autorités, Jean Navarre, célèbre pilote, décide de venger ce qu'il considère comme un affront en passant à bord de son monoplace sous l'Arc de Triomphe, à l'heure même où les troupes défileront sur les Champs-Élysées. Hélas, quelques jours avant le défilé, il se tue en effectuant une démonstration aérienne. Qu'à cela ne tienne, le jeune pilote Charles Godefroy décide de reprendre le flambeau. Il volera sous l'arc pour venger ses camarades humiliés. Les plus grands noms de l'aviation pensent pourtant ce défi irréalisable. Le pilote Georges Guynemer y a renoncé, déclarant que c'est impossible. Quand on arrive sur l'arc, on ne voit pas le trou, mais seulement un mur de pierre. Roland Garros, quant à lui, prédit une mort certaine à celui qui tentera de passer. Ce même Roland Garros qui, en 1913, a réussi la première traversée de la Méditerranée en avion. Mais Charles Godefroy y croit. Il se présente au petit journal où le journaliste Jacques Mortane le reçoit. En apprenant le projet du jeune aviateur, le reporter est pris de stupeur. Bien qu'intéressé par cette incroyable entreprise, il tente d'abord de l'en dissuader. Mais c'est peine perdue. Croyez-vous que je me livrerais à semblable exercice si j'avais la moindre crainte? Je ne tiens pas à me tuer. Je me marie le mois prochain à Saint-Charles Godefroy, qui décidément ne doute de rien. Il faut dire que l'intrépide pilote n'en est pas à son coup d'essai. Déjà, il a été rappelé à l'ordre pour avoir rasé les murs du château des Papes à Avignon. Une autre fois, à l'occasion du départ d'un camarade, il a volé trop bas au-dessus de la gare d'Arles. Avant de tenter le passage de l'Arc de Triomphe, Charles Godefroy s'entraîne cette fois sous les ponts du Petit Rhône. Rendez-vous compte qu'il y a parfois 10 cm à peine entre la pierre et les ailes de son avion, mais le pilote s'en sort sans encombre. Godefroy se rend aussi plusieurs fois sur la place de l'Étoile pour étudier les vents qui pourraient perturber son vol aux abords du monument. Alors le 7 août 1919, à 7h20, le pilote vêtu de son uniforme d'adjudant-chef décolle discrètement de l'aérodrome de Villacoublay à bord de son chasseur Nieuport. Une brume épaisse voile Paris à 150 mètres de hauteur. Des gouttes de pluie s'écrasent sur le visage du pilote qui est obligé de descendre plus bas pour ne pas se perdre. Sur la place de l'Étoile, le journaliste Jacques Mortane attend comme convenu, cinématographe braqué sur l'Arc de Triomphe. Soudain, au loin, un ronflement de moteur se fait entendre. Le Nieuport apparaît à l'horizon. Charles Godefroy salue le journaliste de la main avant de se concentrer sur son objectif. Il accomplit plusieurs renversements en faisant le tour de cet arc qui va peut-être causer son trépas. Puis il redresse son engin, baisse un peu d'altitude et remonte l'avenue de la Grande Armée à seulement 20 mètres du sol. Il heurte un arbre, mais continue sa trajectoire, s'élance vers l'étroit tunnel que représente l'Arc de Triomphe. Les promeneurs qui se trouvaient là par hasard tremblent. Va-t-il passer? Va-t-il se tuer? À 150 km par heure, Charles Godefroy s'engouffre. Il semble déporté sur le côté gauche par le vent. Est-ce le crash? Non! Avec une incroyable maîtrise, Godefroy parvient à redresser son appareil. L'avion de 9 mètres d'envergure passe sous la voûte de l'Arc de Triomphe, large d'un peu plus de 14 mètres. il traverse exactement au milieu, survolant de justesse un tramway dans lequel des passagers terrifiés se jettent sur le sol. Son exploit accompli, Charles Godefroy rentre tranquillement à l'aérodrome de Villacoublay. Le voyage n'a pas duré une demi-heure. Une fois atterri, c'est une autre épreuve qui commence pour le pilote. On menace de censurer le petit film qui a été tourné par la presse et Charles Godefroy est lui-même inquiété car il est évidemment formellement interdit de voler au-dessus de Paris. Mais les autorités militaires se contentent de lui taper sur les doigts. Après cet exploit, l'aviateur raccroche ses ailes. Il cesse de piloter pour se consacrer au commerce de vin. Devenu une véritable icône, décoré après sa mort en 1958, Charles Godefroy reste pendant 60 ans le seul pilote à avoir osé le passage spectaculaire sous l'Arc de Triomphe et le seul à avoir eu sa revanche au nom de tous ses coéquipiers sur ce 14 juillet où tous n'avaient foulé les champs qu'avec les pieds, restant à tout jamais un aviateur hors pair qui ne manquait définitivement pas d'air.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Charles Godefroy, nous sommes avec un ancien pilote et toujours grand spécialiste de l'aviation. Bonjour Michel Polaco.
Bonjour.
Bonjour Michel Polaco, vous avez été pilote professionnel avant de devenir journaliste spécialisé en aéronautique et vous avez dernièrement coécrit l'histoire de l'aviation aux éditions Grunt. Justement, est-ce que l'exploit de Charles Godefroy a changé quelque chose dans l'histoire de l'aviation? Qu'est-ce que Charles Godefroy représente pour les aviateurs et les spécialistes de l'aviation?
Alors, l'exploit de Charles Godefroy, effectivement, participait à changer la donne. C'était une marche vers la reconnaissance d'une armée de l'air qui n'existait pas encore. À cette époque-là, quand la guerre de 14 a commencé, on avait 150 avions et quelques centaines de pilotes formés. C'était des avions qui étaient mis en œuvre par des cavaliers. C'était la cavalerie qui s'occupait de l'aviation. Et d'ailleurs, il nous en reste une chose, c'est que vous avez peut-être remarqué que comme on monte à cheval par la gauche, eh bien on monte dans tous les avions, que ce soit des avions civils ou militaires, par la gauche, comme l'ont toujours fait les cavaliers. Voilà, alors c'est une aviation qui est aux côtés de l'artillerie, du génie, et aux côtés de cette nouvelle arme aussi que sont les blindés, qu'on commence à voir apparaître pendant la guerre de 14. Mais il n'est pas question de voir cette aviation prendre son indépendance. Elle a été créée en 1912 comme une unité de l'armée de terre et c'est une unité de la cavalerie de l'armée de terre.
Mais on ne comprend pas pourquoi, Michel Polaco, pourquoi le gouvernement français ne veut pas que les aviateurs volent pour le défilé du 14 juillet qui a suivi la première guerre, même si l'armée de l'air n'existe peut-être pas, mais ça aurait eu de la gueule de voir les avions au-dessus. C'est vraiment une question de sécurité ou pas du tout? C'est juste une question de symbole. Ils ne voulaient pas que les avions volent ce jour-là?
Non, c'est de loin pas seulement une question de sécurité. Bon, évidemment, des avions de cette époque-là qui étaient soumis à des pannes assez fréquentes auraient pu être amenés à se poser. Il y avait beaucoup de foule sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Mais enfin, bon, vous savez, il y a quand même eu 17 500 pilotes pendant la guerre de 14, 175 as français et plus de 100 as alliés. La presse parlait énormément d'eux. N'oubliez pas qu'en pleine guerre, on faisait venir Guynemer à Paris pour le décorer, pour l'inviter dans des grands restaurants des Champs-Élysées, que des constructeurs automobiles lui prêtaient de très belles voitures, etc., etc. Donc les aviateurs étaient des gens qui attirait quelque part la jalousie de la part de tous ces militaires d'avant, comme ceux qu'on a vus défiler sur les Champs-Élysées, avec en tête le maréchal Pétain à cheval, le maréchal Joffre à cheval, le maréchal Foch à cheval. Tous ces gens étaient à cheval. Donc voilà, ces aviateurs sont des casse-pieds et donc on les met au pas et on les fait marcher à pied avec l'infanterie, avec l'infanterie.
Mais Charles Godefroy, au fond, il voulait une reconnaissance de l'armée de l'air ou une reconnaissance aussi personnelle en réalisant ce défi?
Alors il ne voulait pas une reconnaissance personnelle car n'oubliez pas que c'est Navarre qui normalement devait faire cet exploit, que Navarre s'est tué. Navarre était un as, il avait 12 victoires. Vous savez qu'on est un as pendant la guerre de 14 à partir de 5 victoires. Godefroy n'a pas les 5 victoires, ce n'est pas un as. Donc il n'a pas essayé d'obtenir une reconnaissance personnelle. En revanche, pour lui, vis-à-vis de ses camarades, de ses amis pilotes, et en particulier de tous les as et des as survivants aussi, il veut montrer qu'il est plus que solidaire et qu'il est prêt à un certain sacrifice, parce qu'on se doute que derrière, il peut y avoir des sanctions. Donc voilà, c'est une humiliation qu'il voulait réparer.
Et Michel Polaco, sur l'exploit lui-même, pour revenir à l'exploit, il y a une phrase dans le récit de Stéphane qui m'a marqué, c'est Guynemer qui disait sur le défi qui consiste à passer sous l'Arc de Triomphe, c'est impossible, quand on arrive sur l'arc, on ne voit pas le trou, mais seulement un mur de pierre. C'est vrai que quand on se balade en tant que piéton à côté de l'Arc de Triomphe, on voit qu'il y a la place pour un petit avion de passer en dessous, mais quand on arrive dans cet avion, c'est tout autre chose. On voit effectivement un mur de pierre, le trou est tout petit par rapport à la vitesse.
Je connais bien cette histoire de l'Arc de Triomphe parce que bien longtemps après, alors que j'étais chef pilote de l'aéroclub hispano-suisse à Pontoise, j'ai embauché un pilote qui s'appelait Alain Marchand comme pilote instructeur. C'était donc en 1981. Et donc, il a décidé de passer sous l'Arc de Triomphe. Donc, il a étudié la question, il m'en a parlé. Et effectivement, il y a des courants d'air assez forts sous l'Arc de Triomphe. Mmh. Bon, c'est pas large. Évidemment, il faut arriver soit par les Champs-Élysées, soit par l'avenue de la Grande Armée, et il faut s'arranger pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. Il faut être sûr qu'il n'y a pas un drapeau qui pend sous l'Arc de Triomphe au dernier moment, comme ça s'est vu, vous vous souvenez peut-être, dans un très beau film. Il faut être sûr qu'il n'y a pas un câble qui pend, comme c'est arrivé sous la Tour Eiffel, et ça a été d'ailleurs à l'origine de la mort d'un pilote qui s'appelle Léon Collet, qui est passé en 1926 sous la Tour Eiffel, enfin qui a essayé et qui s'est craché contre un câble qui pendait sous la Tour Eiffel. Donc, si vous voulez, c'était quand même assez dangereux sur le plan aéronautique d'arriver à passer avec un avion de 10 mètres dans une voûte de 14 mètres. Ça n'a été fait que deux fois dans l'histoire, hein, une fois par Godefroy et une fois par Alain Marchand. Mais enfin, il faut être honnête, ce n'était pas très sérieux, cette histoire.
Et ce qui est plus surprenant, c'est que Charles Godefroy a décidé, après cet exploit, de raccrocher. Il aurait pu en faire d'autres, il aurait pu continuer à voler. Non, il est devenu commerçant, négociant en vin.
Alors, vous savez, on termine la guerre de 14 avec plus de 5000 pilotes encore vivants. Je crois même que c'est 7 ou 8000. Il n'y a plus de travail pour eux. L'armée n'a plus besoin d'eux, donc elle les vire. Il y a des avions, il y a plus de 5000 avions dont on ne sait pas quoi faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a ceux qui vont se lancer dans l'aviation civile. On va créer la première ligne aérienne Paris-Londres en 1919. On va se lancer donc dans le transport de passagers, dans le transport de la poste. On va essayer de trouver des nouveaux débouchés à l'aviation. Mais la plupart des pilotes vont cesser de voler. La plupart. Et donc, lui, ben, il va retourner s'occuper des affaires de sa famille et en particulier du commerce de vin. Et il va vivre d'ailleurs des jours heureux jusqu'en 1958, date de sa mort. J'ai été assez frappé de voir qu'il n'existe aucune promotion de l'armée de l'air qui porte son nom, alors qu'évidemment, il y a des Adolphe Pégou, il y a des Jean Navarre et des marins Lamélé, et j'en passe, et c'est à juste titre. Mais lui, il a été quand même un combattant pour la naissance de l'armée de l'air, qui est née officiellement, vous savez, en 1934. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant. Mais alors, il était indiscipliné, cet homme-là, vous comprenez. Alors,
c'est, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner son nom à une promotion.
Oui, mais je pense que ça se fera un jour, parce qu'il le mérite grandement. Bon. Ça a été un homme tout à fait courageux.
Bah, merci beaucoup, Michel Polaco. Je rappelle votre tout dernier ouvrage, L'histoire de l'aviation, que vous avez coécrit avec Gérard Felzer, Karl Werner et Stéphane Woolford, qui est paru aux éditions Grund. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
À bientôt, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grands revanchards de l'histoire. Après Jeanne de Belleville et Charles Godefroy, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai, de deux revanchards à la fois plus proches et plus riches que nous.
Oui, Stéphane, et ça doit vous interpeller, car plus riche que moi, c'est une chose. On comprend qu'on a affaire effectivement à un niveau de richesse proprement indécent. C'est une histoire de dingue que je vous raconte aujourd'hui. Alors déjà, vous serez d'accord avec moi, Stéphane, que la vengeance est un plat qui se mange froid.
Et si vous pouvez rajouter de la truffe dedans?
Non, mais c'est une image, Stéphane. Je crois que vous allez bien vous entendre avec mes personnages du jour. Je vous présente Tyler et Cameron. Ils sont américains, ils sont grands, ils sont battus comme des dieux, tout en muscles et en mâchoires, et ils sont inséparables.
Eux, ils sont homosexuels?
Non, pire, David, ils sont jumeaux. Tyler et Cameron Winklevoss. Ils sont indissociables, comme les Twix ou les Raiders, si vous voulez, Stéphane. Ils viennent au monde en... si vous aimez les pâtes de fruits, si vous voulez, vous aimez les Raiders. Ils viennent au monde en 1981, comme David, et comme David, leur père possède de la thune, beaucoup de thune. C'est un homme d'affaires californien, déjà multimillionnaire. Les jumeaux grandissent donc dans un monde merveilleux où tout brille grâce à des Philippins très sympas dont la grande passion dans la vie semble être de faire la poussière derrière vous avec un plumeau. Conscients de leur chance, les jumeaux vont très vite décider de rendre à leurs prochains ce que la vie leur a donné en s'inscrivant aux maraudes de la côte ouest pour aider les plus démunis. Évidemment que non, Stéphane, je déconne. Ah, les bon. Démunis s'en tamponnent le coquillard. Ce qui est kiff, eux, c'est claquer le blé de papounet à Ibiza. It's nicer than distributing ratatouille to homeless guys. C'est quand même plus cool que de distribuer des conserves de ratatouille aux clodos, se disent les jumeaux, qui, uniquement de par leur qualité intrinsèque, et pas du tout grâce aux chéquiers et aux connexions de papa, vont faire Harvard, puis Oxford. Bon, Oxford, c'est aussi grâce à leur physique hors norme. Leurs mains, c'est des steaks. Leurs cuisses, des poutres. Leurs pieds, des palmes de plongée. Et dans la vie, c'est faux de dire qu'ils n'aiment que l'argent. Non, ils aiment aussi l'aviron. Ils sont d'ailleurs finalistes de l'épreuve d'aviron au JO de Pékin de 2008. Bref, deux beaux spécimens de connards. C'est pas moi qui le dis, c'est Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor et directeur d'Harvard à l'époque, qui a déclaré, je cite, « Jamais vu des mecs rouler les mécaniques comme eux. De vrais assholes », je traduirai par « fripons ». Et oui. Des fripons extrêmement agaçants, puisque non contents d'être balèzes en sport, sur le plan scolaire, leurs profs les qualifient de surdoués. Pour des surdoués, hein, c'est comme Pouls, hein, avoir 152 de QI pour se faire couillonner avec une question sur Henri IV, ça sert à rien. C'est exactement ce qui va arriver à nos tic et tac de la win. Ils vont se faire avoir comme des bleus par un camarade d'Harvard nommé Mark Zuckerberg, un gamin qui fait pas d'aviron, pèse 62 kilos tout mouillé, possède 3 t-shirts et se masturbe certainement beaucoup. Alors que les jumeaux travaillent sur un réseau social pour étudiants, un peu neuneux qu'ils sont, ils en parlent à Zuckerberg, qui évidemment fait mine de s'en foutre. Oui, oh, oh non, ça marchera jamais votre truc. 2 mois plus tard, Zuckerberg utilise l'idée pour créer Facebook sans les inclure dans le projet, alors qu'il leur avait pourtant juré qu'il ne piquerait pas le concept.
Ah ben je vous le promets sur toutes les bouteilles de ma cave à vin.
Hélas, il avait pas de cave à vin. Il du Pepsi, ce con. Les jumeaux sont comme des cons, ils demandent à papa de faire quelque chose. Ce dernier leur prête donc ses avocats et les jumeaux attaquent Zuckerberg. Ils réclament l'équivalent en dollars du salaire annuel de Stéphane Bern pour 30 numéros de Secret d'Histoire. Mais hélas pour eux, ils devront se contenter de seulement 65 millions de dollars. Autant dire une paille, sachant que Facebook est alors valorisé à 10 milliards de dollars. À ce stade de l'histoire, néanmoins, après avoir empoché 65 millions, un individu lambda déciderait de profiter un peu de la vie et surtout de jouer la carte de la sécurité en plaçant cet argent sur un bon PEL à la caisse d'épargne. Pas nos jumeaux qui décident immédiatement de tout réinvestir dans une crypto-monnaie qu'à l'époque on ne sait même pas ce qu'est une crypto-monnaie. Et pas n'importe laquelle puisque le projet s'appelle Bitcoin. Un système de transactions financières numérisées qui vient du Japon, je vous ai déjà expliqué ici, vous avez encore tout oublié parce que c'est compliqué, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que les jumeaux investissent à fond dans le Bitcoin au moment où il ne vaut rien, en 2009. Ce qui aurait été vraiment fandard, c'est que le Bitcoin fasse pchit et que les deux gosses de riches perdent tout leur blé et en soient réduits à aller faire la queue dans un de ces centres de distribution alimentaire pour lesquels ils n'ont jamais filé un dollar. Sauf que la vie n'est pas juste. La vie, vous le savez David, est une catin capricieuse et le Bitcoin va exploser. Le pire, c'est que les deux andouilles n'ont même pas inventé le Bitcoin. Oh là là, non, ils ont juste eu du bol. C'était l'été 2008, ils étaient en vacances à Crozon, dans le Finistère. Ils pêchaient des bulots et les trempaient dans la maillot. Ah non, pardon, ils étaient à Ibiza. Ils payaient des macros pour tremper dans des yugos. C'est très différent, en effet, c'est très différent. Leur spot, la plage très privée de Blue Marlin. Un soir, ils sirotent tranquillement des mojitos entre un mannequin, une instagrammeuse et une travailleuse du sexe, la plupart des clients du lieu étant souvent les trois à la fois, quand soudain, un certain David Hazard fait son entrée. Non, c'est pas. Non, à ne pas confondre avec Thierry Hazard. David Hazard, c'est le cofondateur de la plateforme d'échange BitInstant. Il voit en ces deux gaillards les cibles parfaites pour un investissement. Ils aiment le risque, l'argent et se sont déjà fait couillonner une fois. Pourquoi pas deux ? Hey guys, do you know Bitcoin ? Connaissez-vous le Bitcoin ? Non ? Ah bah c'est trop bête, let me explain you. 2h12 plus tard, les jumeaux prennent la décision qui va changer leur vie en les faisant passer de riches à méga riches. Ils misent plus $1 million dans la plateforme d'échange BitInstant, dont leur a parlé ce David, et achètent pour plus de $11 million de Bitcoin, soit 1% de toute la crypto-monnaie en circulation à l'époque. Très vite, le cours du Bitcoin décolle et les jumeaux s'émancipent de David Hazard et sa plateforme un peu trop amateur à leur goût pour développer leur propre business, la Winklevoss Bitcoin Trust. À l'époque, le Bitcoin est encore considéré comme instable et dangereux. Leur but, en faire un investissement sûr. Leur certitude, je cite, « Le Bitcoin ne peut prospérer à terme que s'il est échangé sur des plateformes régulées basées sur des produits financiers réputés sérieux. » Bien vu, Tic et Tac, en quelques années seulement, le cours du Bitcoin est multiplié par 700 pour atteindre les $7,000. Désormais, vous le savez, on en a parlé ici, ils frôlent régulièrement les $50,000. Les jumeaux pèsent à eux deux $6 milliards. Ça en fait des mojitos au Blue Marlin. Bref, on n'est vraiment pas du même monde. Pas vrai, Stéphane ?
T'as pas un fax ? Je dois recevoir du fric de Monaco.
Enfin, oui, non, enfin, sauf vous, Stéphane. Je veux dire, ça, pas du même monde que nous, moi. Les petites gens.
C'était une citation, je tiens à le préciser.
Les fax, allons.
Vous venez utiliser Pixfax. Aujourd'hui, vous avez votre appli UBS Banque Privée et hop, l'argent arrive directement, bien sûr.
UBS est suisse, c'est à vous. Oui. L'union des banques suisses.
Mais oui, tout à fait, oui.
Nous,
mince, je me suis trahi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est temps, Mathieu, de dire au revoir à nos revanchards pour retrouver deux chroniqueurs absolument pas rancuniers.
Mais non, ils ne sont pas comme ça et pour une raison simple, Stéphane. Le coin apaise les mœurs. C'est ce qu'on dit, hein, Olivier.
Mais vous savez ce que c'est que le Cotignac?
Je connais le village de Cotignac.
Ah oui, il a donné son nom et a une petite patte de coin.
De patte de coin, oui. Il y a le Bitcoin et patte de coin.
Elle est où la cymbale là? Voilà un peu de réactivité. Mais d'abord, on retrouve David Castello-Lopez.
Bien sûr, pour les origines du système métrique.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'adore les États-Unis. Je trouve que c'est le meilleur pays du monde avec les personnes les plus compétentes du monde dans tous les domaines, sauf peut-être la gastronomie, vous voyez.
Moi, je vous confirme.
Mais voilà, ils ont un goût de l'ambition que je trouve admirable. Mais il y a un truc quand même où je trouve que c'est des FDP complètement. C'est leur obsession de refuser le système métrique. Les États-Unis, c'est une des seules nations du monde qui n'utilise pas le système métrique. Et ça m'énerve. Vous êtes aux États-Unis, vous demandez à un ami américain, il fait combien de mètres carrés ton appart? Il dit, I don't know. Combien tu pèses en kilos? Non. Tu peux m'apporter une bière de 50 centilitres? 50 centilitres, I'm sorry. Oh, that's European. Mais ta gueule.
L'ambassade des États-Unis sur la ligne.
Et c'est énervant parce que le système métrique, c'est quand même une des inventions les plus brillantes du monde. C'est une sorte d'espéranto de la mesure qui fait que même quand on ne parle pas la même langue, eh bien, au moins on peut se comprendre sur la petite frange de la réalité qui concerne les dimensions. Un mètre français, c'est le même mètre que le mètre allemand, c'est le même mètre que le mètre espagnol, que le mètre chinois, malgache, péruvien. Et c'est émouvant. C'est un peu comme un petit terrain qu'on a reconquis sur le monde d'avant la tour de Babel. Et c'est sympa, c'est trop sympa. Mais alors, d'où ça vient le système métrique? C'est qui a inventé le système métrique? Eh bien, vous êtes tous cultivés autour de la table. Hein, je pense que donc vous savez que ce sont les Français. Pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, il y avait à peu près autant de systèmes de mesure que de gens dans le monde. Souvent, on mesurait, vous savez, avec les parties de son corps, pour les distances, le pied, le pouce, le coude, la paume, tout ça. Mais le truc, c'est que ces mesures, elles étaient pas du tout égales les unes aux autres, parce qu'évidemment, tous les pieds, tous les pouces n'ont pas la même taille. Est-ce que vous savez combien il y avait d'unités de mesure différentes, ne serait-ce que dans la France de l'Ancien Régime?
Dans la France,
une cinquantaine.
Ah, je dirais une vingtaine.
700. Il y avait 700 unités de mesure différentes. Mais et puis c'était n'importe quoi. La superficie des planchers, par exemple, elle s'exprimait dans une certaine mesure, qui était les pieds carrés, et celle des tapis, c'était une autre, c'était les zones carrées. Voilà. On ne sait pas pourquoi. C'est une espèce de tradition à la con comme ça. Et les philosophes des Lumières, qui étaient un peu carrés, eux, ils trouvaient à juste titre que c'était quand même complètement débile et pas du tout efficace. Et donc l'une des choses que les révolutionnaires ont décidé à la Révolution, c'est d'unifier l'ensemble des mesures en France, et notamment en créant notamment le mètre et le kilo. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle définition ils ont donné à ces unités. Est-ce que vous savez par exemple ce que c'était qu'un mètre au moment de la Révolution?
C'est un petit peu changé maintenant. C'est un pas, non? D'homme à adulte?
Eh bien, en fait, c'est l'Académie des sciences en 1791 qui l'a défini. Et ils se sont dit qu'il fallait que ce soit basé sur les dimensions de la Terre, ce qui était quand même assez élégant. Et ils ont dit un mètre, ce sera un 10 000 000e de la distance qui sépare l'équateur du pôle Nord. Voilà. Alors, il a fallu après mesurer la distance de l'équateur du pôle Nord. Ça a pris
15 ans plus tard, on a pu créer le système
exactement.
Métrique.
Le kilo, c'est le poids. Vous savez ce que c'est qu'un kilo? Personne ne sait ce que c'est un kilo.
Est-ce que c'est alimentaire?
C'est un litre d'eau.
C'est le poids d'un volume d'eau contenu dans un cube de 100 cm3. Alors ça, c'est la France, mais comment est-ce que ça s'est répandu dans le reste du monde? Eh bien d'abord, ça s'est répandu dans le reste de l'Europe grâce à Napoléon, qui a quand même apporté le système métrique un peu partout. Ça a pris un peu de temps quand même, des dizaines d'années. Mais ensuite, évidemment, tous les pays européens qui avaient adopté le système métrique, ils l'ont imposé dans leurs empires coloniaux, c'est-à-dire à peu près dans le monde entier, puisque l'Europe avait des colonies partout. Mais il y avait toujours un pays qui résistait, c'était l'Angleterre, parce que c'était un peu une question d'honneur, vous voyez. L'idée avait beau être bonne, ils avaient quand même à cœur de montrer qu'ils n'étaient pas les bitches des Français, ni pour ça, ni pour le reste. Mais
petit à petit, ils ont commencé à céder. Et en 1965, l'Angleterre a formellement adopté le système métrique, même si, en fait, ça cohabite quand même avec le système qu'on appelle le système impérial, qui est les pieds, tout ça.
Sur les voitures, ils sont toujours en miles per hour. Hein,
oui, voilà. Bah, voilà. Et donc, c'est pas aller partout. Et en plus, maintenant, avec le Brexit, ils se disent « Non, mais ce serait sympa qu'on revienne aux anciennes mesures. » Mais les États-Unis, eux, ils s'accrochent. Hein, et même, ils sont un peu fiers de ne pas être comme tout le monde de ce point de vue-là. Mais ça leur a un petit peu joué des tours. En 1999, il y a une sonde de la NASA qui avait coûté 125 millions de dollars et qui s'est scratchée sur Mars à cause d'une erreur de calcul liée à quoi ? À une confusion chez les ingénieurs entre le système métrique et le système américain. Ils avaient fait des conversions, ils s'étaient plantés. Et moi, je trouve que c'est un tout petit peu bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est mon avis, c'est mon avis. C'est comme ça.
Américain.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et tout de suite, Olivier Pouls pour notre rubrique gastronomique.
Europe 1, historiquement vôtre.
Olivier, il y a des jours où je vous bénis, d'autres, je me demande ce que vous foutez là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pâte de coin ? C'est dégueulasse la pâte de coin,
mais
non ?
Vous rigolez, vous n'avez jamais été enfant.
Bah si, j'étais enfant, mais je mangeais du chocolat, on était en Suisse.
Et on vous offrait pas des petites pâtes de coin ?
Grand Dieu, heureusement non.
Mais c'est délicieux, c'est un côté en même temps sucré, un peu acidulé.
C'est des pâtes de fruits.
Bah c'est des pâtes de fruits, mais qu'on fait beaucoup au coin, surtout en cette période qui est maintenant.
Déjà
que
le coin lui-même n'est pas très intéressant.
Et la période où on ramasse le coin.
Bah, à part en gelée en pâte, je vois pas à quoi sert le coin.
C'est comme la rhubarbe, quoi.
C'est bon, les tartes à la rhubarbe.
Non, là il y a débat.
On ne peut pas croquer dans la rhubarbe de la même façon.
On
ne peut pas
croquer. Non, parce qu'il faut enlever l'amertume avec.
Peut-être qu'on peut laisser Olivier.
Oui, je veux bien intervenir, mais
dérouler la pâte de coin.
Du coin, commençons à parler du coin. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant avec le coin et son arbre, le cognassier. On l'assimile souvent à la poire. C'est un cousin un peu lointain de la poire, mais ce n'est pas une poire.
C'est comme une poire terreuse.
Et la particularité du coin, c'est qu'on ne peut pas le manger cru. Il faut le cuire. Et il faut le cuire très longtemps. C'est un peu incommodant. Et puis surtout, c'est très dur. Et ça n'a pas énormément de saveur. Ça n'a pas un intérêt à être mangé cru. Donc il faut le cuire très longtemps. Le cognassier, il est probablement originaire peut-être du Caucase et il est connu depuis l'Antiquité où déjà on en faisait des préparations à base de miel, on le cuisait très longtemps. Ce qui est intéressant avec le cognassier, vous en avez dans votre jardin, mon cher Stéphane, c'est que c'est un arbre qui est très proche de l'arbre originel, c'est-à-dire que contrairement aux pommiers, aux poiriers qui ont été énormément croisés, on a fait des variétés, en fait le coin est resté très brut, très proche de ce qu'il était et il n'y en a pas beaucoup de variétés, il y a une trentaine de variétés à peine de cognassiers qui existent aujourd'hui et autant de coins, mais on ne les consomme pas toutes. Il y a seulement 5-6 variétés de coins qu'on peut consommer. Alors, si vous avez déjà récolté des coins, ça ressemble à une grosse poire un peu difforme. C'est recouvert d'un petit duvet. C'est tout doux, très agréable à toucher. Petit duvet qu'on enlève en le passant sous l'eau. Et ensuite, on peut réaliser une pâte de coin, une gelée de coin, ce qu'on appelle le cotignac. Alors, le cotignac a été inventé par un apothicaire originaire de la ville de Cotignac, dans le Var. Et ce dernier s'est installé à Orléans au XVe siècle. Il a apporté avec lui cette petite friandise. Et cette petite friandise, il y a un homme, un roi français qui en était particulièrement amateur, c'est François Ier, qui était grand amateur de cotignac. Alors, le cotignac, si vous voulez en faire, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est des petites pâtes de coin plus ou moins, on va dire, concentrées et donc plus ou moins élastiques que vous allez pouvoir faire chez vous, puisque en ce moment, on peut trouver des coins. Alors, 1 kg de coin, 750 g de miel, une bouteille de vin rouge, mais rassurez-vous, l'alcool va s'évaporer et il n'y aura plus d'alcool dans vos pâtes de coin, un jus de citron et un peu d'épices, gingembre moulu ou de la cannelle. Alors le coin, il faut l'éplucher, il faut le couper en morceaux. On va enlever les pépins et on va enlever le petit trognon. Et pépins et trognons, on va mettre ça dans une gaze qu'on va mettre à immerger au moment où on va cuire. Parce que dans ce pépin et dans ces trognons, sont contenus de la pectine. Et la pectine, c'est ce qui va donner le gélifiant et c'est ce qui va permettre à cette pâte, justement, d'avoir sa texture si particulière. Donc, on va le laisser cuire pendant au moins une heure dans le vin rouge, dans le miel, dans les épices. On écume très régulièrement, on filtre à la fin et on va le couler soit dans des pots ou alors sur une petite plaque avec un rebord de manière à avoir au moins un centimètre d'épaisseur. Ça va gélifier, on en coupe des petits carrés, on rajoute un tout petit peu de sucre Il y en a de délicieuses pâtes de coin.
Et surtout après, on l'offre. N'oubliez pas, ensuite, on ne le mange jamais soi-même. On l'offre, évidemment, les pâtes de coin, ça fait toujours plaisir. Mais surtout à ne pas consommer soi-même. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes.
Ben, je vais vous en offrir.
Mais c'était un truc, moi, toute mon enfance au Portugal, on mangeait ça avec le fromage.
Oui, et puis brusquement, très bien avec le fromage.
Il nous faut une musique pour le Portugal, parce qu'à chaque fois, David nous entraîne au Portugal.
Avec quel fromage en Angleterre aussi, il y en a.
Ouais, bien sûr. Mais en France, j'ai l'impression que ça fait 5 ans et que maintenant, ils en foutent partout. Alors que quand j'étais petit, il n'y avait pas de pâtes de coin chez les fromagers. Voilà, une petite remarque personnelle.
Alors, cela dit, ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque, parce que la pâte de coin, en soi, ne m'excite pas. En revanche, associé à un fromage, un chèvre,
je le disais
bien fort et tout ça, le contraste doit être intéressant, effectivement. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Bon, pour terminer, on va voir qui de vous trois a quelques connaissances dans un coin de sa tête et on va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter ?
Toujours.
C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe. Une question pour Olivier, une pour David, une pour Mathieu. Et en cas d'égalité, une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner où il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Aujourd'hui, je suis un peu désolé parce que les trois questions sont super faciles. Mais alors vraiment
ça,
facile.
Ça met la pression parce que c'est donc, le moins pas dire ça.
Je pense que,
pour des idiots.
Alors peut-être vous tombez sur la question dont vous ne connaissez pas la réponse, mais l'autre la connaîtra. C'est tellement simple, j'ai presque honte de vous poser ces questions, mais je le fais quand même. Allez, Olivier, le 15 août 1969, c'est le festival de Woodstock. D'ailleurs, il ne s'est pas passé à Woodstock. C'est vrai ou faux ?
François Ier.
C'était aux États-Unis.
Non, on sait, mais Woodstock, c'est le festival de Woodstock, vous savez.
Oui, mais c'est pas la ville de Woodstock, non.
Et non, il s'est déroulé à Bethel, dans l'État de New York. C'est à 80 km de Woodstock. On attendait 50 000 personnes,
il en a eu 500 000.
500 000. David, quand on dit chafouin, ça vient du XVIIe siècle, car quand on avait un rhume des foins, on était rarement de bonne humeur. Vrai ou faux ?
C'est faux, je dirais.
Bah oui, évidemment, c'est pour ça que je dis c'est facile. Ça vient du mal de la fouine, évidemment. Ouais. Ah ben on appelle le foin, ça vient effectivement du XVIIe siècle. À l'origine, c'était pour désigner une personne sournoise. Moi, j'ai toujours entendu chat-foin, c'est entre le chat et la fouine.
Ah,
donc,
d'accord, ça fait sens.
Voilà, ça fait sens.
Allez, une question facile pour moi aussi.
Oui, très facile. Alors là, franchement.
Ah oh non, c'est la pression.
Vous voyez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous savez qui en est l'auteur.
Lamartine,
oui. Le poète s'est présenté.
Mais c'est pas la question.
À la première élection présidentielle au suffrage universel. Vrai ou faux ?
Et oui. Bien sûr, parce qu'il ne voulait pas voler. Oui, mais ça, ce n'est pas tellement facile. C'est parce qu'on en a parlé dans l'émission. Vous faisiez l'imitation.
Oui.
Il ne voulait pas voter les gens.
Non, parce que c'est Lamartine. Il ne voulait pas voter pour Lamartine.
Pourquoi
Mais non, c'était une femme, il n'y avait pas de femme.
Ah, Lamartine, la Véronique, quoi. C'est ça.
Oui,
on vote pour la Mireille.
Ah, bon, on va voter pour Lamartine.
Voilà. Bah, on le savait, parce qu'on est
cultivé. Trois questions faciles. Donc maintenant, il y a une question pour vous départager. La réponse la plus proche, vous le savez, remporte la lutte finale. Lamartine s'est présenté en 1848, donc à l'élection présidentielle. Ça, tout le monde le sait. Il y a eu 7 500 000 votants. En pourcentage, quel a été son score ?
Ce que j'essaie de détecter, c'est pourquoi vous avez ce sourire absolument vicieux, là.
Combien de pourcentage ?
1%.
1%.
Moi, j'ai mis 8%.
8% et pour vous ?
Moi, j'ai mis 10.
10. Eh bien, c'est Mathieu qui gagne.
Non,
il a eu 0,23%.
Ah voilà, il était vraiment tout.
Je vous l'ai dit, je vous ai aidé.
Oui, mais il aurait pu y avoir quand même quelques personnes.
On va pas voter pour Lamartine.
Oui, c'est vrai.
Il n'est pas une femme.
Oh là là, je suis content.
Louis-Napoléon Bonaparte, lui, a été élu avec 74% des voix. Et évidemment, après, il a fait son coup d'État quelques années plus tard.
Imaginez si Lamartine avait été élu, ça aurait été un autre destin pour la France.
Il vous disait, c'est l'illusion lyrique. C'était beau comme son programme.
L'illusion lyrique.
Oui.
Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes revanchard, vous, Stéphane ?
Écoutez, pas trop, non, malgré toutes les perfidies que vous m'envoyez.
Ah, que moi ?
En fait, je les oublie au fur et à mesure, donc le lendemain, je vous en veux pas. Voilà.
Vous ne m'en voudrez donc pas si je vous demande le programme de demain.
Mais
justement.
Non, demain, on réunit d'anarchistes artistes. Georges Brassens, dont on célèbre le centenaire de la naissance sur Europe 1. Mais aussi le peintre anarchiste Paul Signac.
Et également un nanar entarteur à 16h qui a fait du mal à de nombreuses célébrités. Mais il s'en est jamais pris à vous, Stéphane. Hein, Noël Godin, dit le gloupier. Je vous raconte son histoire.
Moi, je l'adore.
Alors, c'est un Belge. Alors à demain, Mathieu. À demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h.
sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.